Bonjour et bienvenue en Espérance aujourd'hui. Je m'appelle Yann.
Et je m'appelle Hélène. Nous sommes heureux de vous retrouver.
Espérance aujourd'hui est une émission de réflexion biblique. Nous sommes persuadés que la Bible apporte des réponses réelles et pleines d'espoir aux problèmes que nous pouvons rencontrer au quotidien.
Aujourd'hui, le thème que nous allons aborder est celui des conflits qui peuvent marquer nos vies et le besoin de trouver des pacificateurs, des médiateurs capables de régler ces différends. Nous commençons avec Yann et Robert qui vont parler de l'exemple d'Abraham à ce sujet.
Il est toujours dommage de voir des disputes s'élever au sein d'une famille ou des querelles éclater entre voisins. S'il est difficile d'éviter les sujets conflictuels et les récriminations, nous devons savoir comment régler ces problèmes au mieux. C'est sur ce sujet que nous allons nous pencher aujourd'hui. Encore une fois, Robert s'est joint à nous. Bonjour.
Bonjour Yann, et bonjour à chacun.
Il me semble que les récits de la vie d'Abraham nous relatent des querelles dans lesquelles Abraham était impliqué. Est-ce exact?
Oui, tout à fait. La Bible relate au moins deux occasions où Abraham a été confronté à des disputes. Dans la première, il s'agit d'une situation qui aurait pu devenir une querelle de famille très grave. Abraham et son neveu Lot avaient tous deux des troupeaux gardés par des bergers. Apparemment, là où séjournaient Abraham et Lot, les pâturages commençaient à manquer et cela est devenu un sujet de dispute entre les bergers qui acceptaient de nourrir leurs troupeaux. Le deuxième récit se trouve dans Genèse chapitre 21, où il est dit que les serviteurs d'un chef de tribu nommé Abimélec se sont emparés d'un puits appartenant à Abraham.
Donc il s'agit de querelles au sujet de la terre et de l'eau, de choses qui sont essentielles pour le bien-être physique et matériel.
Oui, et les hommes n'ont pas beaucoup changé aujourd'hui. Car que ce soit à l'échelle d'un village ou d'un quartier, ou bien à l'échelle internationale, dès qu'une ressource naturelle commence à manquer, des querelles s'élèvent. Même aujourd'hui, ça peut être la terre ou l'eau, le bois ou le pétrole, et parfois ces conflits dégénèrent pour finir de façon sanglante.
Mais dans les deux récits que vous avez évoqués, il n'y a pas eu de sang versé. Pourquoi cela a-t-il été évité?
Parce que toutes les personnes impliquées, et surtout Abraham, se sont comportées avec retenue et ont cherché à négocier des solutions justes et adaptées à leurs problèmes.
Que s'est-il passé donc dans l'affaire qui risquait de semer la zizanie entre Abraham et son neveu?
Alors, une fois qu'Abraham a pris connaissance du problème, il a vite appelé son neveu en vue de le régler. Il était clair que les deux familles ne pouvaient plus demeurer ensemble sur les mêmes terres. Les conflits se seraient poursuivis. Abraham a recommandé alors qu'ils se séparent, paisiblement, en bons termes, pour séjourner sur des terres différentes. Il a proposé à son neveu de faire son choix entre la plaine et les collines. Lot a choisi de descendre sur la plaine avec son foyer et ses troupeaux.
Que pouvons-nous apprendre de l'exemple d'Abraham, de la façon dont il a abordé cette querelle?
D'abord, Abraham a dit à Lot, je cite, « Il ne doit pas y avoir de dispute entre nous. » Abraham était donc un homme qui ne cherchait pas les disputes. Au contraire, il discernait dans les querelles la violence potentielle capable de détruire des relations humaines, de briser des amitiés, même de rompre des liens de sang. Nous devons reconnaître ce même potentiel qu'ont des querelles de semer le malheur dans nos propres vies et entourages. Ceci dit, Abraham n'a pas fui le problème qui s'était posé à lui. Parfois, notre désir d'éviter un conflit peut nous pousser à fuir la situation, à ne rien faire. Il s'agit là de la politique de l'autruche qui, à l'approche d'un ennemi, enfonce sa tête dans le sable dans l'espoir que l'ennemi partira sans l'avoir. Si on ne saisit pas l'occasion de régler un problème, la situation peut empirer et les conséquences du conflit peuvent atteindre des proportions désastreuses.
Donc il faut agir dès que possible pour trouver une solution juste.
C'est ce que Abraham a fait dans les deux incidents que nous avons évoqués. Il a agi rapidement dès qu'il a pris connaissance des faits. Maintenant, il y a une autre leçon que je voudrais aborder.
Je vous en prie, quelle est-elle?
C'est qu'Abraham me semble ne pas tomber dans le piège de la convoitise, qui, il faut le dire, est un péché aux yeux de Dieu, interdit par le 10e commandement donné à Moïse.
Et en quoi la convoitise a-t-elle un rapport avec notre sujet ?
La convoitise est le désir de toujours posséder plus, et notamment le désir d'entrer en possession de quelque chose qui appartient à quelqu'un d'autre. La convoitise est parfois à l'origine des disputes et peut empêcher une querelle de se résoudre paisiblement, de façon convenable pour toutes les parties. Permettez-moi de vous montrer de quoi je parle, à partir de ce différend entre les bergers d'Abraham et Lot. Souvenez-vous que devant la nécessité de se séparer, Abraham a laissé Lot choisir où il voulait aller. Alors Lot a choisi la plaine du Jourdain, qui selon la Bible était bien arrosée et comme un paradis. Ces terres offraient à Lot l'occasion de devenir beaucoup plus prospère que s'il restait sur les collines et les montagnes de Canaan.
Et c'est là donc où Abraham a dû rester, c'est-à-dire sur les terres plus arides.
Oui, et ce que je veux souligner, c'est que si Abraham avait aussi convoité les terres sur la plaine, tout comme Lot, cela aurait fourni un nouveau terrain de dispute. À vrai dire, Dieu a fait prospérer Abraham sur les montagnes de Canaan. Toutefois, Abraham ne donne pas l'impression d'un homme motivé, poussé par la convoitise. Cet incident avec Lot montre qu'il acceptait de ne pas tout avoir et que pour résoudre des querelles dans la paix, on ne peut pas imposer à l'autre des revendications trop exigeantes, excessives. Il faut être raisonnable.
Et sur ce deuxième incident au sujet d'un puits, ce conflit avec la tribu d'Abimelech, voulez-vous aussi ajouter quelque chose ?
Une fois de plus, nous constatons qu'Abraham œuvrait pour la paix et la justice en cas de litige. N'oubliez pas que quelques serviteurs d'une autre tribu se sont emparés de ce puits. Nous pouvons admirer la prudence d'Abraham. Il aurait pu envoyer ses propres hommes armés afin de reprendre le puits par la force. Sans doute, cela aurait engendré un conflit violent et persistant entre ces deux tribus. Non, au lieu de cela, Abraham rencontre d'abord Abimelech, car il désire obtenir les fêtes et le confronter à la situation. De nouveau, Abraham ne fuit pas le problème. Il désire le régler, mais calmement. Il s'est avéré pendant son entretien avec Abimelech que les serviteurs de ce dernier ont agi de leur propre chef. Abimelech lui-même n'a pas commandité cet acte. Par la suite, ces deux hommes ont pu nouer des relations de confiance et au lieu de glisser sur une pente qui les aurait menés à la guerre, ils ont signé un accord de paix. Nous pouvons supposer que dans la foulée, le problème du puits a été convenablement réglé.
Merci pour ces réflexions. Je pense que si tout le monde suivait l'exemple d'Abraham, il y aurait beaucoup moins de conflits graves, moins de relations cassées, moins de cœurs brisés dans ce monde.
C'est vrai. N'oubliez pas toutefois que si nous prétendons être chrétiens, nous sommes appelés à reproduire cet exemple dans nos vies. Car Jésus a dit, et je cite Matthieu chapitre 5 et les versets 6, 7 et 9, « Heureux ceux qui ont faim et soif de justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. »
Abraham était donc un homme de paix. Il n'était pas à l'origine des conflits. Il désirait maintenir la tranquillité. Et là où les disputes éclataient, il agissait afin d'y restaurer la paix. Voilà un bel exemple à suivre.
Le Nouveau Testament parle aussi de paix et de réconciliation, non seulement entre les hommes, mais avec Dieu. Rappelez-vous que Jean-Yves aborde ce sujet à partir d'un texte trouvé dans la deuxième épître à l'église de Corinthe, au chapitre 5 et versets 18 à 20. Aujourd'hui est la dernière intervention de Jean-Yves et nous le remercions pour sa participation à nos émissions. Hélène va maintenant nous lire le texte biblique dont je viens de citer les références.
Dieu nous a réconciliés avec lui par le Christ et il nous a demandé d'annoncer cette réconciliation. Oui, c'est Dieu qui a réconcilié le monde avec lui par le Christ. Il ne tient plus compte des fautes des humains et il nous charge d'annoncer cette parole de réconciliation. Dieu lui-même vous lance un appel au nom du Christ. Acceptez d'être réconcilié avec Dieu.
Lorsque des conflits éclatent entre deux pays, les diplomates cherchent alors à trouver une solution acceptable pour amener la paix, une solution qui pourra régler les désaccords et faciliter la réconciliation. Lorsqu'un gouvernement désire transmettre un message à un autre pays, il envoie un ambassadeur qui sert de porte-parole. Or, un ambassadeur ne parle jamais de son propre gré. Il ne doit qu'annoncer et expliquer la position et la politique de celui qui l'a envoyé. Dans le texte biblique lu aujourd'hui, nous voyons que l'apôtre Paul se présente comme un ambassadeur envoyé pour la réconciliation. Dans ce texte, Paul emploie le mot « nous ». Cela laisse supposer que ce ministère de réconciliation est confié à l'Église entière, et non seulement à un individu. Autrement dit, tout croyant chrétien peut dire qu'il est un ambassadeur de Dieu. Devant cet honneur, nous ne devons pas céder à l'orgueil. Au contraire, avec humilité, nous devons réfléchir sur les responsabilités que cela implique. Comme nous l'avons déjà appris, les hommes ont rompu leur relation avec Dieu à cause de leur faute. Cependant, Dieu offre la réconciliation. Elle est devenue possible grâce à Jésus-Christ qui a porté le poids de nos fautes sur la croix. Le chrétien, qui fait partie du royaume de Dieu, est envoyé dans le monde en tant qu'ambassadeur, chargé d'annoncer et d'expliquer le message de notre roi Jésus-Christ. Ce message est celui de la réconciliation entre Dieu et tout homme et femme. En tant qu'ambassadeur, nous n'avons pas le droit d'inventer le message que nous apportons au monde. Nous devons fidèlement proclamer le message que Dieu nous a confié et chercher à persuader les uns et les autres de la bonté d'un Dieu qui vient vers tous ceux qui l'ont offensé et qui offre, au prix de la mort de son Fils Jésus-Christ, une alliance de paix. Par cette alliance, nous sommes pardonnés, réconciliés et adoptés au sein de la famille de Dieu. Il est toujours merveilleux de voir deux personnes, auparavant séparées et brouillées, s'entendre à nouveau et marcher ensemble dans l'harmonie et la paix. Souvent, pour favoriser un tel retour de l'un vers l'autre, il faut un intermédiaire, un médiateur. Il en est de même sur le plan spirituel. Le monde a besoin de savoir que Dieu a ouvert le chemin vers la réconciliation. Il s'agit d'un véritable honneur aussi d'être nommé ambassadeur, et encore plus lorsqu'il s'agit de servir le Seigneur Jésus. Là où Dieu nous a placés, dans notre entourage, dans notre village ou notre quartier, nous devons annoncer ce message de paix de la part de Dieu, convaincre d'autres de leur besoin de se réconcilier avec lui.
Êtes-vous réputé pour les disputes ou la discorde que vous pouvez semer autour de vous?
Ou parle-t-on de vous en tant qu'ouvrier de paix, comme quelqu'un cherchant à rétablir l'harmonie là où elle a été brisée par le péché et annonçant de la part de Dieu que la réconciliation est possible?
Travailler pour la réconciliation, que ce soit sur le plan humain ou spirituel, n'est pas une tâche facile. Tout comme il est plus difficile de créer un bel objet artisanal que de le casser, cela s'applique aux relations personnelles. La paix et la bonne entente sont fragiles, faciles à briser et difficiles à restaurer. Cependant, Dieu nous appelle à être un ouvrier de paix, un ambassadeur de réconciliation, et cela est participer à l'un des plus beaux projets que Dieu puisse nous confier. Avec cette exhortation, je vous dis au revoir et à bientôt.
Au revoir et que le Dieu de paix soit avec vous.